Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, chers auditeurs, merci d'être avec nous en ce mardi 7 avril. C'est un plaisir de nous retrouver, de vous retrouver ce matin. Joyeuse Pâques quand même à vous tous. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que vous avez pu retrouver votre famille, que vous avez pu vous retrouver aussi autour du mystère toujours de la résurrection qui revient chaque année, et c'est tant mieux. Ce matin, je suis accompagné de Maëlys Clozel. Bonjour Maëlys. Et également de Franck à la technique, à qui je fais faire des sauts périlleux en termes de technique.
Mais bonjour, oui, Franck. Normalement vous ne la laissez pas répondre. Bonjour, non. Bonjour Alexandre, ravi de vous retrouver.
Alors aujourd'hui on va parler de divers sujets, on va revenir un petit peu sur les municipales, mais avec le recul que vous nous connaissez ici à Ligne Droite, chers auditeurs. Tout d'abord on en parlera du sujet de Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, héros de la Nouvelle-France. Ce sera avec Rodolphe Kurt, et puis à 7h25, nous aurons une table ronde composée d'Adrien Nave, Jean-Eudes Gana et Franck Timmermans, qui nous montreront comment on fait pour devenir un élu nationaliste dans sa commune sans forcément passer par les canaux traditionnels. Et puis entre autres chroniques, nous retrouverons à 8h20 Laurence Trochu qui nous parlera de son nouveau livre, voilà, Maman, j'ai vu Jésus, Myriade Crafré à 8h57. Tout ça, c'est un joli programme, mais qui ne serait rien sans un rappel de l'actualité avec Maëlys Clozel.
Bonjour Alexandre et bonjour à tous nos auditeurs. Alors samedi dernier, environ 6000 personnes se sont rassemblées à Saint-Denis à l'appel du maire LFI Bali Bagayoko pour une manifestation prétendument contre le racisme. Plusieurs figures de la France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel et Mathilde Panot, étaient présentes. Vous le savez, cette gauche blanche qui bientôt n'aura même plus son rond de serviette à ce genre de manifestation, parce que cette nouvelle France ne voudra plus d'eux, puisque très curieusement, aucune mention du racisme anti-blanc ni du nom de Thomas Perotto, ce jeune rugbyman tué à Crépol par des racailles au cri de Salguer, n'a été relevé dans ce rassemblement. Une omission révélatrice d'une indignation à géométrie variable qui interroge sur la pseudo-universalité de leur pseudo-combat. Au contraire, puisque la jeune garde a été acclamée. On parle plus amplement de la France créolisée fantasmée par la gauche à 7h10 avec Rodolphe Kurt. Restez bien avec nous. En attendant, écoutons les inepties de la journaliste Anne-Sophie Lapix.
En tout cas, moi je prendrai à l'échelle de la ville de Saint-Denis et Pierrefitte l'ensemble de mes responsabilités. Je suis consacré essentiellement à répondre aux préoccupations de mes habitants. Et si la réponse à ces préoccupations peut permettre d'impulser en fait une dynamique nationale, avec plaisir. Mais je ne me lance pas en fait dans un projet national.
Mais alors on y pense pour vous. Certains vous considèrent déjà comme un Obama français. Est-ce que finalement vous n'avez pas un profil plus intéressant pour représenter une candidature LFI, parce que vous venez de cette nouvelle France dont vous parlez aujourd'hui, parce que vous êtes plus jeune, parce que justement vous êtes noir, parce que vous êtes un élu de terrain depuis déjà une vingtaine d'années? Est-ce que finalement ce ne serait pas plus logique de que vous représentiez une candidature LFI plutôt que Jean-Luc Mélenchon?
Non, je n'ai pas du tout la prétention d'être au niveau de Jean-Luc Mélenchon, il faut être le reconnaître. Moi, je n'ai aucune difficulté avec une forme de modestie, parce que je sais où je suis encore.
Et enfin,
je
Jean-Luc laisse pas Mélenchon flatter. Dit toujours que c'est le collectif qui compte.
Oui, c'est le collectif. En revanche, dans le collectif avec Jean-Luc Mélenchon, oui, j'y serai. Clairement, je crée les conditions pour qu'en 2027, Jean-Luc Mélenchon, qui sera notre candidat, puisse fédérer le plus largement possible, y compris les socialistes de gauche, pour que nous puissions être en capacité de pouvoir gagner en 2027.
C'était Anne-Sophie Lapix en train d'idolâtrer Bali Bagayoko.
Et je m'abstiendrai de tout commentaire déplacé. Le week-end de Pâques fut marqué par un grand nombre de baptêmes, n'est-ce pas Maëlys?
Et oui, vous avez raison Alexandre. Plus de 21 000 baptêmes ont été célébrés à Pâques 2026, dont près d'un quart en Île-de-France. Un chiffre en forte hausse avec plus de 17 400 nouveaux convertis en 5 ans. Un signal clair d'un regain spirituel, notamment chez les jeunes, de plus en plus nombreux à franchir le pas. Pour l'évêque émérite Dominique Ray, le baptême marque un véritable tournant, un avant et un après dans la vie, et les réalisateurs du film Sacré-Cœur, Steven Gunnell et Sabrina Gunnell, que nous avons interrogés sur Ligne Droite et dont l'entretien est disponible sur YouTube, y voient aussi une réponse à une société matérialiste déracinée en quête de sens, de rigueur et de beauté. On vous en dira plus dans le décryptage dans quelques instants.
Et puis les antifas et leur tolérance à géométrie variable font encore parler d'eux.
Bah oui, encore à quelques semaines du Homefest, un festival de métal proche de Toulouse, le groupe Gascon Boisson Divine se retrouve trouve dans le viseur d'un collectif d'ultra-gauche local qu'il accuse de liens avec des figures de droite nationale, en cause des collaborations ponctuelles ou des proximités supposées avec des influenceurs patriotes comme Baptiste Marché ou Papacito, des accusations fermement rejetées par le groupe qui dénonce un procès d'intention. Son chanteur Baptiste Labène assume avoir collaboré avec certaines personnes, mais dans des contextes strictement artistiques ou professionnels, sans engagement politique. Même ligne du côté du festival qui juge ces attaques infondées. Derrière cette polémique, une mécanique bien connue pour certains milieux antifascistes, la moindre proximité. Même indirect suffit à disqualifier, on les connaît trop bien, hélas. C'est une nouvelle forme, une nouvelle démonstration de nazification systématique des adversaires de ce qu'ils définissent comme sujet à faire retentir le bruit des bottes. À voir si l'État succombe à nouveau à leur manigance.
Et puis côté international, Kiev propose une trêve énergétique à Moscou.
Bah oui, absolument. Dans son allocution, Volodymyr Zelensky annonce proposer à la Russie un cessez-le-feu ciblé sur les infrastructures énergétiques via une médiation américaine. L'objectif avancé est de stopper les frappes réciproques sur un secteur clé. Si la Russie est prête à arrêter, nous ferons de même, assure le président ukrainien. Une tentative de désescalade partielle alors que le conflit se poursuit sur tous les fronts.
Et puis pour le sport, on pédale.
Oui, c'est parti Alexandre. Le cycliste français Paul Sexa s'est imposé lundi dernier sur la première étape du Tour du Pays Basque, un contre-la-montre de 14 km. Grâce à cette victoire, il prend également la tête du classement général, lançant parfaitement sa course.
Et pour la météo, est-ce qu'on a retrouvé le printemps ?
Écoutez, pour le moment, aujourd'hui, l'anticyclone continue de régner avec un plein soleil sur l'ensemble du pays. On notera seulement quelques nuages bas près de l'Atlantique et la Méditerranée. Côté température, nous attendons pour les maximales de 18 à 27 du nord au sud, avec notamment 18 à Charleville, 21 à Brest et jusqu'à 24 et 27 à Bordeaux. Et nous célébrons ce 7 avril Saint-Baptiste de la Salle et le bienheureux Hermann de Cologne, chanoine régulier prémontré de l'abbaye de Steinfeld.
Merci Maïlys.
Ligne droite.
Mais vous restez avec nous car vous décryptez.
Tout à fait Alexandre. Alors chers auditeurs, comme je le disais il y a quelques instants, à Pâques ce week-end précisément, 21 386 baptêmes ont été célébrés en France, dont environ 13 000 adultes et 8 000 adolescents. Et oui, c'est un chiffre qui ne passe pas inaperçu et qui dit beaucoup de choses. C'est une hausse nette, plus de 28% chez les adultes, 10% chez les adolescents en un an. Et sur plusieurs années, la progression est encore plus marquée, notamment chez les jeunes ou les baptêmes qui ont multiplié par 5 en 4 ans. Ces baptêmes concernent tous les âges, preuve que ce retour à la foi dépasse les générations et montre la réappropriation d'un héritage que l'on disait dépassé après des décennies marquées par une culture des années 68. Ce sont des Français qui, souvent seuls grâce à des amis ou revenant parfois tardivement vers leur ancienne tradition familiale, décident de se faire baptiser. Pas par habitude ni par héritage, mais bien par choix. Et quand on regarde des témoignages, on retrouve concrètement des parcours de vie bousculés, des périodes difficiles, des moments où les repères n'existent plus. La conférence des évêques parle clairement d'épreuves de vie comme point de départ. À cela s'ajoute une recherche de sens. Certains évoquent une soif de rigueur et de beau. Ce n'est pas anodin comme formulation parce qu'elle dit exactement ce qui manque à notre société actuelle. Rigueur, beau et exigence. On est très loin de l'idée d'une foi facile ou simplement culturelle. Ce que ces catéchumènes viennent chercher au-delà de leur conversion, c'est quelque chose qui structure, qui oblige, qui élève. Ce mouvement apparaît dans une société où les repères sont devenus incertains, où la transmission s'est affaiblie et où l'idée même d'identité est devenue floue, voire inexistante pour certains. On explique à cette génération que tout est relatif, que tout peut être déconstruit, que les cadres sont négociables et eux font l'inverse. Ils ne cherchent pas à alléger le cadre, ils en choisissent un. Ils ne cherchent pas à s'en détacher, ils s'y rattachent. Quand tout devient mouvant, certains cherchent du solide. Quand tout devient discutable, certains veulent du stable. Et aujourd'hui, pour une partie des Français, cette stabilité passe par la foi. Alors oui, il faut le dire simplement, c'est une très bonne chose parce que cela montre qu'il existe encore une aspiration à autre chose que le vide, autre chose que le simple individualisme. Cela montre qu'il y a encore une capacité à s'engager, à croire, à accepter une exigence. Mais il faut aussi regarder ce que cela dit en creux. Parce que si cette recherche se fait en dehors du cadre commun voulu, c'est qu'il y a un problème quelque part dans le cadre commun. Une société qui tient debout, qui est sûre d'elle, transmet ses repères, ne laisse pas ses jeunes aller chercher ailleurs ou plutôt retrouver ce qu'elle ne donne plus. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il se passe. On valorise un modèle où tout se vaut, où les références s'effacent, où la continuité est remise en cause. Et face à ça, certains jeunes choisissent entre autre chose et non pas par nostalgie, mais parce qu'ils en ont besoin et qu'ils ne se reconnaissent plus dans ce qu'on leur propose. Ce n'est pas une fuite, ce sont des conversions, des jeunes qui choisissent leur foi, qui s'y engagent et qui y trouvent ce que le reste ne leur offre plus, du sens, une exigence, une continuité. C'est une France qui ne tourne pas le dos à ses racines, elle les retrouve là où la société hésite, eux tranchent, là où elle relativise, eux s'engagent.
Merci Maïlis.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous allons parler de Bali Bagayoko, nous allons parler du maire de Saint-Denis, de cette marche contre le racisme que Maïlis Clauzel évoquait à l'instant. Nous allons parler de la Nouvelle-France et tout cela, ce sera avec Rodolphe Carte. Bonjour Rodolphe.
Bonjour.
Alors vous êtes, je le rappelle, journaliste et vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, je ne saurais lesquels citer, mais notamment un ouvrage sur Mélenchon, le bruit et la fureur, et puis également, on peut citer, Faire Légion pour un travail, pour un réveil des autochtones, pardon. Alors, Rodolphe Carte, la première question, c'est que ce week-end, il y a quand même eu, effectivement, samedi, 6000 personnes, selon la police, rassemblées à Saint-Denis. Quel était l'objectif de cette démonstration de force ?
Bah, moi, j'ai eu l'impression un peu d'une AG étudiante, on va dire, augmentée. C'est vrai qu'il y avait quelques drapeaux français, assez rares, beaucoup de drapeaux palestiniens, des drapeaux du parti, des drapeaux de la CGT, du NPA, de Révolution Permanente. Aussi du PS, qui a été, relativement houspillé. Mais par contre, c'était intéressant de voir les petites sphères aussi à gauche encore de la France Insoumise avec le MPA ou Révolution Permanente. Donc, on était encore dans une stratégie de consolidation du socle. C'est-à-dire, on sait que Jean-Luc Mélenchon, notamment au moment des élections municipales, a eu besoin de mobiliser sa base. Donc, on voit qu'il est... Je dirais pas que c'est encore un meeting de campagne, mais plutôt de pré-campagne, parce qu'il n'y a pas encore cette volonté d'ouverture, d'élargissement, comme on a pu le connaître par exemple en 2017, où là, les meetings de la France Insoumise, il y avait énormément de drapeaux français, vous vous en souvenez, c'est quand on remplace le drapeau rouge, communiste, oui, parfois même par les drapeaux bleu-blanc-rouge, qu'on chante un peu plus la Marseillaise que l'international. Donc voilà, on a un meeting, je dirais, relativement militant. D'ailleurs, sur les strates, c'est intéressant aussi de voir les personnalités qui se sont succédées. Il y avait Assa Traoré, aussi peut-être mentionner qu'il y avait le véritable instigateur de cette ligne quelque part, qui est Coquerel. C'est Coquerel, à partir de 2017, qui souffle à l'oreille de Mélenchon que les 600 000 voix, parce qu'en 2017, il échoue à l'accession au second tour à 600 000 voix près, eh ben, elles sont dans les banlieues. Oui. C'est là-bas qu'il faut aller chercher les voix, même si moi je pense que l'abandon en réalité du vote des classes populaires majoritairement blanche, autochtone, en tout cas de la France périphérique et du périurbain, l'abandon a été fait beaucoup plus tôt. Mais là, disons que c'est vraiment l'acte fondateur de la nouvelle stratégie France Insoumise, où on essaye d'élargir la base, en tout cas de la mobiliser, la base électorale des banlieues. Donc là, on était vraiment dans une marche, dans cet esprit en tout cas.
Et on voit que ce qui était recherché d'une certaine façon, c'était de mettre en avant un thème qui est celui de l'antiracisme, qui est pour le coup un des thèmes majeurs employés par la France Insoumise, mais pas nécessairement le principal non plus de ces dernières années. Est-ce que finalement l'antiracisme mobilise tant que ça les racisés ?
Bah, disons que pour la stratégie, ou en tout cas les mythes mobilisateurs, Jean-Luc Mélenchon, il a à mon avis perçu quelque chose d'assez important, c'est qu'il faut les incarner. On parle souvent du mythe palestinisme, ou en tout cas du palestinisme avec la figure de Rima Hassan. On a le mythe antifasciste avec Raphaël Arnaud, autour duquel le groupe a fait bloc. Il n'y a pas eu de défection, c'est quand même des indications, ça a gardé en tête. Et donc vous avez ensuite ce mythe de la Nouvelle France, ce mythe antiraciste, incarné par cette nouvelle figure qui émerge un peu grâce aux élections municipales, qui est Bakayoko. Donc c'est intéressant de voir que là-dessus, Jean-Luc Mélenchon, il a l'intelligence à chaque fois, quand il avance un mythe mobilisateur politique, on va dire, de l'incarner. Ça c'est intéressant, et peut-être que les autres partis politiques en manquent de ces figures qui incarnent, même si Mélenchon a toujours cette position de surplomb, de grand Manitou, c'est lui qui contrôle. Mais par contre, oui, il a à chaque fois une personnalité pour incarner la chose, et ça, je pense que c'est vraiment un des avantages de la France Insoumise, ou en tout cas, ça fait partie de leur stratégie, et c'est plutôt redoutable, il faut le dire.
Oui, c'est un sujet, un lieutenant, quelque part, un héros AUT, comme on le titrait pour cette émission. Rodolphe K, je vous propose justement au sujet de Bali Bagayoko de mettre votre casque et d'écouter peut-être quelque chose qu'on a diffusé il y a quelques minutes, mais que je voudrais réentendre avec vous.
En tout cas, moi je prendrai à l'échelle de la ville de Saint-Denis-Pierrefitte l'ensemble de mes responsabilités. Je suis consacré essentiellement à répondre aux préoccupations de mes habitants. Et si la réponse à ces préoccupations peut permettre d'impulser en fait une dynamique nationale avec plaisir. Mais je ne me lance pas en fait dans un projet national.
Mais alors on y pense pour vous. Certains oui, vous considèrent déjà comme un Obama français.
Voilà. Alors Bali Bagayoko qui serait donc un Obama français. Anne-Sophie Lapix se lance là-dessus et puis même dit si vous pensez pas au sujet national, nous on y pense pour vous. Il y a quand même quelque chose de facile.
Oui, bah c'est la fameuse bascule qu'on a essayé tous un peu de prophétiser à quel moment justement. Une partie des personnalités que Jean-Luc Mélenchon a fait monter dans l'appareil allait le grand remplacer. C'est vrai qu'on a mentionné par exemple l'entretien d'Ali Duhara avec Rachel Garrido oui. et Sandrine Rousseau, c'était pour le média
Lunaire
Street Press.
Cet entretien par ailleurs.
Oui, et c'était la même chose avec la prise de parole de Rima Hassan devant Mathilde Panot en disant que le porte-parole allait s'arrêter. C'est intéressant que vous mentionniez aussi la matrice antiraciste parce que pendant cette manifestation, on l'a vu, SOS Racisme a été largement houspillé. Et là, certains se sont dit, mais attendez, pourquoi SOS Racisme est houspillé ? Moi, je dis que c'est une longue... En tout cas, c'est une logique qui coule de source, si je puis dire. SOS Racisme, on sait que c'est piloté depuis l'Élysée dans les années 80 pour, on va dire, passer du combat social au combat sociétal. C'est-à-dire, on va cette fois-ci constituer la gauche au mythe du tour, en tout cas du mythe antiraciste. Ça permet, en plus, ce mythe antiraciste, il a un avantage, c'est qu'il permet d'unifier la gauche, d'intimider le centre et d'attaquer la droite. Oui. C'est un mythe, j'ai envie de dire, politique extraordinaire. Et Jean-Luc Mélenchon s'en sert très pertinemment. Et puis, vous avez vu, au fur et à mesure des années, une critique de cette utilisation, justement, du mythe antiraciste, notamment par les indigènes de la République. Et Ourya Boutelja, qui avait très férocement attaqué, en tout cas, l'appareil Parti Socialiste, à l'époque, en disant que, justement, les socialistes, qui étaient, on va dire, des blancs universalistes, bourgeois, se servaient des banlieues comme faire valoir, justement, et en plus, pour culpabiliser le peuple autochtone, en leur disant que leur histoire, c'est deux choses, la collaboration et la colonisation.
Ouais, mais après, il y a toujours, justement, cette question de... du fétichisme en plus envers ces populations, la question de comment on les valorise. En fait, ça m'amène à une autre question, tout ça, c'est que, évidemment, on a vous parliez d'Ourya Boutelja à l'instant, qui, elle, pour le coup, va se placer dans une frange extrêmement conservatrice, enfin, une sorte de néo-réaction un peu étrange autour de valeurs traditionnelles des peuples autochtones arrivés en France, donc les peuples africains essentiellement. D'un autre côté, on a toujours cette idée de la convergence des luttes entre effectivement les luttes progressistes et les luttes antiracistes qui se mènent. Et tout ça nous amène à un concept nouveau qui a été forgé quand même il y a quelques années, qui est le concept de Nouvelle France. Moi, j'ai fait une petite chronique là-dessus il y a une dizaine de jours. La Nouvelle France, c'est pas une France composée exclusivement, disons-le franchement, mais de Noirs, d'Arabes, d'Asiatiques ou de personnes je ne sais où. C'est une nouvelle forme de la France. Comment ça se matérialise ? Parce que doctrinalement, il parle pas tant que ça, finalement, du métissage des populations, par exemple.
Non, et d'ailleurs, peut-être rappeler aussi à quel point même la Nouvelle France est archipélisée. Elle n'échappe pas au phénomène qu'on connaît bien en France. C'est intéressant parce que pendant cette manifestation, vous avez Delogu qui s'est pris en photo en train d'embrasser la main d'une voilée d'origine africaine, d'Afrique noire. Allez voir les commentaires dessous.
Ouais.
Là, c'est éclairant. Il faut aussi rappeler à quel point, au sein de la Nouvelle-France, il y a des fractures. Et même, disons que à l'orée, justement, peut-être des années 2030-2040, on verra une lutte intra-communautaire, comme on le connaît, par exemple, dans d'autres pays. Je pense à l'Angleterre, vous avez des affrontements entre les communautés aussi. Donc, vous avez raison de pointer du doigt que c'est pas une concorde générale, justement, ce concept de Nouvelle-France, et c'est pas une créolisation générale. Et d'ailleurs, parfois même, comment dire, le fait de pousser la créolisation, ça peut même être plutôt mal vu parfois par ses électorats cibles. Et même, on a connu, vous en souvenez, des affrontements en 2020, c'était à Dijon, entre les communautés tchétchènes et maghrébines. Aussi, Rima Hassan disait quelque chose d'intéressant dans un entretien, je crois même que c'était sur la chaîne des indigènes de la République. Elle disait « Moi, la communauté qui m'attaque le plus sur les réseaux, c'est la communauté marocaine. » Pourquoi ça ? Parce que Rima Hassan, au moment du conflit sur le Sahara occidental, avait pris parti et on sait qu'elle a des positions très largement pro-régime algérien. Mmh. Donc, vous voyez, ça pose des questions. Et en fait, cette unité, elle est largement mythifiée, hein, même du côté de Mélenchon.
En fait, ce qui est assez fascinant, c'est que la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon serait une France qui, non pas remplacée, mais qui prendrait en compte le grand remplacement, je dirais, selon les termes de la droite nationale. Et puis, à côté de ça, qui prendrait en compte plein d'autres paramètres. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une question qu'on se pose tous depuis quelques années, et à laquelle on n'a toujours pas la réponse, c'est quand est-ce que ça va, pardonnez-moi l'expression, mais quand est-ce que ça va péter ?
Oui, alors pareil, en fait, dans mon livre, je revenais sur, vous l'avez très bien dit, cette alliance qu'on a un peu avec cette convergence inédite. Mais par contre, il faut bien comprendre une chose, c'est que de chaque côté, on n'est pas dupe d'avec qui on fait l'alliance.
Bah oui.
C'est pas non plus un mariage où tout se passe bien. Il y a de relatives craintes, il y a beaucoup de, comment dire, d'alliance en dépit d'eux. Mais par contre, moi qui avais pas mal analysé le discours des indigénistes, par exemple Wissam Gzelka, qui est un streamer bien connu des sphères internet et qui est issu de ce monde-là, disait justement, on est derrière la France Insoumise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est le seul parti qui peut arriver potentiellement au pouvoir, donc la vision stratégique, et c'est aussi le parti le moins islamophobe de France.
Oui.
C'est pas le parti le plus enclin à promouvoir une politique pour les musulmans, le moins islamophobe. Donc voyez la logique aussi dans laquelle ils sont vis-à-vis des partis politiques.
Parce que d'une certaine façon, ce qui est assez fascinant et qui n'existe pas tellement, je trouve, dans d'autres mouvances politiques, c'est que par exemple la majorité, des musulmans, même des musulmans radicaux, vont voter pour la France Insoumise, comme par exemple une grande part aussi des personnes s'identifiant LGBTQ+, etc. Pourtant, les deux ne peuvent absolument pas coexister. C'est un exemple un peu caricatural, mais qui, je pense, est assez juste. De même qu'on pourrait dire que les Marocains et les Algériens ont aussi du mal à coexister dans le fond. En fait, on a l'impression que ça pousse. Est-ce qu'au bout d'un moment, tout ça va se briser avant peut-être une victoire de la gauche, selon vous?
En tout cas, on apprend, en tout cas dans ces diverses déclarations, qu'il y aura un point où il y aura une difficulté. Vous savez, il y a eu un livre qui est sorti récemment, Occident avec un S, de Frédéric Martel, qui revient un peu sur une alliance réactionnaire, justement, à travers le monde. Il revient un peu sur ces aspects. Bref, ça c'est sa thèse. Moi, par contre, il y a le cas vénézuélien qui m'a beaucoup intéressé. Parce que c'est vrai que j'ai ressorti mes fiches sur le Venezuela, parce que au début des années 2000, c'est vraiment la matrice dans laquelle Jean-Luc Mélenchon va prendre une grande partie, on va dire, de ses thèses. C'est vraiment là que le populisme type mélenchoniste Nouvelle France...
Précisons que c'était le Venezuela de Chavez, pas celui de Maduro. Hein.
Exactement. Mais par contre, il voit plusieurs choses dans cette Amérique latine. De un, la foi religieuse, elle a une importance aussi dans le combat social. C'est la fameuse théologie de la libération, etc. En tout cas, il se rend compte de l'importance de la religion. Deuxième point, il se rend compte aussi de l'importance des conflits ethnoculturels. À l'époque, Chavez joue énormément contre l'indianité, les Indiens contre l'hyperclasse, ou en tout cas l'oligarchie blanche, qu'il va qualifier de bourgeoisie comme Prador, selon la terminologie marxiste. Mais vraiment, Jean-Luc Mélenchon se rend compte que on peut adosser au combat social les luttes pour les minorités. Donc là, il met dedans les LGBT, les femmes célibataires, les minorités religieuses, etc. Et aussi le côté religieux. Et ça donne ce pot pourri. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Hugo Chavez vantait parfois, ou en tout cas riait du fait qu'il ait, je le cite, des grosses lèvres ou alors des cheveux frisés. C'est quelque chose qu'il mettait en avant justement parce que c'était le fruit du métissage.
Comme Mélenchon le fait d'une certaine façon.
Avec le fameux maghrébin européen. Ouais. Sauf que Mélenchon, il faut quand même le rappeler, a quand même une tête de colon blanc. Excusez-moi, européen. D'ailleurs, c'est ses origines et il ne s'agit absolument pas de lui enlever. Mais disons que quand il se présente comme maghrébin européen, il y a une certaine barrière quand même qui se présente. Donc je pense que Jean-Luc Mélenchon n'arrivera pas à aller jusqu'au bout de ce prototype. Mais par contre, quand vous voyez des figures comme M. Bagayoko, c'est certain que Jean-Luc Mélenchon doit, comment dire, entendre le vent siffler dans ses oreilles un petit peu.
Eh bien, merci beaucoup, Rodolphe Carr. On voit quand même que c'est plus une alliance contre, finalement, qu'une alliance pour, avec tout ça, antiraciste, antifasciste, anti... Il y a quand même toute cette idée, mais c'est toujours cette convergence des luttes, à voir vers quel projet. Effectivement, on vous recevra à l'avenir pour peut-être parler un petit peu plus de la stratégie finale de la gauche et des stratégies qui existent en son sein, j'ai envie de dire. Merci d'avoir été avec nous, et puis on vous dit à très bientôt.
Merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, il est 7h24, merci d'être avec nous ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, vous êtes bien sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Tout de suite, nous allons passer au grand entretien, notamment avec une table ronde qui devrait, je le crois, vous passionner.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, nous allons parler des élus nationalistes qui ont réussi à se faire élire en dehors du cadre des partis traditionnels. C'est quelque chose qui est finalement assez peu commun. On sait que généralement des élections municipales, certes, favorisent l'accession à certains postes de personnalités hors parti. Cela étant, le fait que ça se généralise et le fait qu'on commence à voir un mouvement qui vient de ça est quelque chose d'assez peu commun. Pour cet entretien, j'ai le plaisir de recevoir ici-bas Adrien Neuve. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes conseiller municipal de Saint-Paul-sur-Mer et conseiller régional des Hauts-de-France, tout à fait. D'un autre côté, je reçois avec moi Franck Timmermans. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été directeur de campagne de Yannick Leroux, donc maire de Vierzon, mais vous êtes un historique du Front National tout de même, étant donné que je crois que vous étiez là à sa fondation, si je ne m'abuse.
Oui, en 72.
Voilà, c'est ce qu'on raconte.
C'est jeune.
Voilà, ça vous laisse des souvenirs. Et puis on est également avec nous à distance Jean-Eudes Gana. Jean-Eudes Gana, bonjour.
Monsieur.
Alors, vous êtes conseiller municipal de Segré en Anjou Bleu, récent conseiller municipal, et alors tous trois, le point commun que vous avez, c'est que vous avez réussi à faire percer une liste qui n'était pas dans le cadre des partis de droite traditionnels, même de partis de droite nationale traditionnelle. Tout d'abord, je me tourne vers vous, Franck Timmermans, étant donné que vous êtes sans doute le plus grand gagnant des trois personnes que j'ai conviées à cette table. Donc, avec vous, Yannick Leroux, ancien policier,
oui,
est parvenu à emporter la ville de Vierzon, à la faire basculer dans le camp de ce que les médias appellent l'extrême droite, mais on pourrait dire des droites très diverses, allant
absolument,
en tout cas du centre jusqu'à Reconquête. Une union des droites par la base que vous avez réalisée. Comment est-ce que vous avez réussi à faire basculer cette ville qui était quand même communiste depuis quelques décennies, si je ne m'abuse?
Oui. Avec un intermède socialiste dans les années 90, mais qui n'avait pas duré longtemps. C'était un bastion, une enclave bien stalinienne, on peut dire. J'ai vécu 20 ans en Seine-Saint-Denis, je n'ai pas été dépaysé là-bas. Donc j'avais quand même quelques idées forces pour essayer d'attaquer la citadelle. Mais il y a un an exactement, j'ai fait la connaissance de Yannick Leroux, qui est venu me voir. J'habitais à Vierzon depuis moins de 2 ans. Et puis, il avait en tête de faire une liste d'union des droites, parce que la ville était en train de dépérir complètement. Il y avait un budget à peu près de 47 millions d'euros. Sur ces 47 millions d'euros, il y avait 40 millions engloutis dans le fonctionnement et 7 millions pour l'investissement seulement, 32 millions de dettes, etc.
Une gestion communiste.
Gestion communiste typique. Et il m'a dit, le Rassemblement national a investi un jeune étudiant, mais qui s'intéresse davantage aux législatives et qui est parachuté.
Oui.
Et nous voulons prendre la mairie. On ne se satisfait pas d'un seul tour de piste, même si à la fin, on est sûr de faire un gros score. Mais le problème, c'est la mairie. C'est une ville quand même de 25 000 habitants.
C'est une ville qui est connue pour être dévastée, ravagée d'une certaine façon.
Oui, si, oui. Elle est vraiment en très, très mauvais état à tout niveau, au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'environnement, au niveau de l'emploi et puis surtout des entreprises qui maintenant fuient plutôt cette réputation difficile entretenue par les communistes. Et à partir de là, le virus politique m'a repris. Et puis, on s'est lancé. Alors, l'union des droites, très sincèrement, ça ne pouvait pas se faire avec les états-majors. Là, je dois dire que c'est
on reviendra sur ce point dans un instant. Jean-Luc Ganin, je me tourne vers vous. Expliquez-nous un petit peu votre expérience, parce que comme à Vierzon, vous avez quand même, il faut le dire, bénéficié de l'absence du Rassemblement National dans votre commune. C'est un petit peu ça qui a permis aussi votre score à Segré en Anjou Bleu.
Oui, bien sûr. Je pense que ce score n'aurait pas été possible avec la présence du Rassemblement National. Nonobstant, que ce soit à Vierzon ou chez nous, on fait aussi bien chez nous et sans doute mieux à Vierzon que ne l'aurait fait le Rassemblement National. Parce que je pense qu'avec, en réalité, le parti politique, pour un certain nombre de candidats, permet de suppléer l'absence d'implantation. Que ce soit à Vierzon ou chez nous à Segré, il semblerait qu'on soit parvenu à monter des listes et à faire des scores très surprenants pour les observateurs, en dépit d'un soutien d'un grand mouvement national, et simplement à la force du poignet et du fait de notre enracinement. Voilà, je crois que le secret est là.
Au fond, que Timmermans, je me tourne vers vous. En l'occurrence, vous avez quand même quitté le Rassemblement National, je crois à l'époque où c'était encore le Front National. Quand vous l'avez quitté, est-ce que finalement l'histoire qui est arrivée à Adrien Nave, cette histoire d'un cadre, on va dire en tout cas d'une candidature annulée d'une certaine façon pour excès de radicalité d'une certaine façon et aussi par népotisme, c'est quelque chose qui vous surprend 20 ans après? Vous avez quand même bénéficié de l'aide du Rassemblement National durant votre campagne, au moins au niveau local. Comment est-ce que vous voyez ça ?
Les conditions étaient assez différentes. En 1998, si vous faites allusion à la grande scission qu'il y a eu entre Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen, une scission surtout provoquée par un duel d'égo, essentiellement. Mais non, il n'y avait pas de problème à cette époque-là réel de parachutage. Il y en a eu quelques-uns, mais pas à ce point-là. Parce que à cette époque-là, on pouvait quand même se targuer, grâce aux efforts de Karl Lang, de Bruno Maigret, de Gollnisch, d'une implantation réelle. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une priorité qui était donnée aux fédérations, aux sections. Les résultats d'ailleurs des élections municipales de 1995 avaient été excellents, et là on n'avait pas besoin de s'abriter derrière des statistiques mêlant les petits villages. Et 20 ans après, même plus, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de coterie et qu'il y a une nécessité d'envoyer, de parachuter des cadres parisiens au seul motif que peut-être les locaux ne seraient pas suffisamment intelligents ou suffisamment expérimentés, alors que la réalité est plus grave, c'est que c'est au seul motif que le Rassemblement National n'est pas assez implanté. Moi, je vois dans la communauté de communes de Vierzon, le Rassemblement National, au deuxième tour des législatives dernières, a fait quand même 58% de moyenne, ce qui est considérable. Il n'y a qu'à Vierzon que nous avons été capables de faire une liste. Le Rassemblement National, malheureusement, n'a pas su localement développer des cadres, des vocations, des militants pour créer des embryons, même dans des villes de 1000 ou 2000 habitants. Et nous en payons le prix fort, parce qu'après, pour prendre le contrôle d'une communauté de communes, c'est pas simple.
Adrien Nave, d'un autre côté, ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez quand même réussi, je regardais le chiffre précis, mais à réunir 6630 voix et donc 5 sièges aussi au conseil municipal avec votre liste, donc qui n'est pas RN, mais dans le défi Dunkerquois, qui est classé divers extrême droite. Voilà, ça c'est une nouvelle étiquette. Dans le fond, est-ce que vous partagez justement cette idée que c'est pas forcément une question de logis, c'est une question d'un type d'homme, et que dans le fond, finalement, pour réunir parfois une liste pour une élection, il faut savoir faire appel à on va dire des personnes qui sont peut-être en dehors du parti. Est-ce que c'est de la faute, dans ce cas, du Rassemblement National qui exclut d'autres de catégories d'hommes, on va dire? Ou alors, est-ce que c'est plutôt de la faute, justement, en fait, est-ce que finalement, ça se fait, les listes transpartisanes comme ça
C'est même la généralité. Quand vous constituez une liste pour les élections municipales, les trois quarts des personnes qui sont sur votre liste ne sont pas cartées dans un parti politique. Alors même si vous êtes soutenu évidemment par un parti politique, La majorité des gens qui composent votre liste ne le sont pas. Alors bien sûr, ils partagent un certain nombre de valeurs, un certain nombre de convictions, et tant mieux, c'est une force, mais il ne faut pas, quand vous constituez votre liste, vous ne leur demandez pas d'être adhérents dans un parti politique. Et donc, évidemment, ce que vous allez chercher, c'est leur ancrage local, c'est est-ce qu'ils font partie de la société civile, est-ce qu'ils sont membres d'une association, est-ce qu'ils ont une valeur ajoutée pour la ville, est-ce qu'ils sont capables demain d'être à des postes de responsabilité pour diriger une commune. Donc vous allez chercher des compétences.
Oui, mais après, il y a toujours une coloration idéologique, forcément. C'est-à-dire que, surtout dans les villes d'une taille comme celle de Dunkerque, par exemple, des villes qui sont quand même, on va dire, des villes moyennes de France, forcément, la coloration idéologique quelque part, touche les résultats.
Évidemment, oui. Et puis d'ailleurs, c'est l'objet du défi dunkerquois, qui est un mouvement politique local qui cherche à réunir et à faire l'union des droites sur Dunkerque. Ce que nous avons réussi dans le cadre de ces élections municipales, puisque nous avons réussi à avoir des anciens de chez LR, des membres de l'UDR, des gens du RN, également, effectivement, Antoine qui a des valeurs à l'Action française, mais ce qui nous intéresse localement, c'était leur enracinement, effectivement, leur travail sur le dunkerquois, leur capacité à être dans les milieux dunkerquois. Et donc, ce que nous cherchons avant tout dans une élection municipale, c'est l'enracinement avant les convictions politiques, même si évidemment, nous partageons des valeurs de droite.
Oui. Et alors, vous, Franck Timmermans, en l'occurrence, vous avez fait une union, mais alors très large, et absolument pas dans le cadre des partis politiques. Et justement, vous êtes quelque part tout à fait émancipé de Paris. Pour cette élection.
Ah, complètement. Alors, d'ailleurs, quand on a commencé l'aventure, il y a un an, l'une des conditions que nous avions fixées était de ne demander aucune investiture à aucun état-major.
Ah, c'était déjà prévu dans le plan original.
Ah ben, oui. Parce que sinon, nous y serions encore. aller essayer de rabibocher les états-majors parisiens entre LR, Reconquête, Rassemblement National, et j'en passe, sans parler bien sûr de Bout la France et de tous les autres. Il n'est que voir toutes les divisions qui arrivent au moment des élections européennes dans le courant souverainiste pour comprendre à quel point il est difficile de réunir les gens sous une même bannière. Donc pour travailler au plus près du terrain, la première des conditions, c'était de déclarer notre autonomie par rapport à tous les états-majors, afin de fixer comme seule priorité la reconquête de Vierzon. Voilà, libérer Vierzon de la tutelle communiste, et pour cela, tous les gens de valeur, de bonne volonté, de militantisme réel, étaient conviés à se joindre à nous, d'autant qu'aucun parti important n'était capable de faire une liste. Nous avons été la seule liste de droite.
Est-ce que ça vous a aidé, finalement, de faire ça en dehors du cadre d'un parti? C'est-à-dire, est-ce que si vous aviez eu l'étiquette RN, selon vous, ça vous aurait desservi, par exemple?
Nous n'aurions pas gagné, parce que, sans jouer les aruspices, je peux vous dire que les dernières législatives le prouvaient, il y avait là encore un plafond de verre, et le RN aurait polarisé quand même toutes les autres oppositions contre lui, d'autant que, conduit par un parachuté, inexpérimenté, très sympathique, mais totalement inexpérimenté, il n'aurait pas forcément agrégé sur sa liste tous les gens de qualité que nous avons rencontrés.
Mais alors, si je ne me trompe pas, Yannick Leroux, qui est désormais le nouveau maire de Vierzon, lui n'est pas non plus un vieux baroudeur de la politique, n'est pas un spécialiste du tout.
Non, c'est vrai. Mmh. Il a 50 ans, c'est un major de la police nationale qui s'est mis en disponibilité et que j'ai trouvé un garçon loyal, inexpérimenté, mais au contraire, il faut construire sur du neuf, hein, bien souvent, très, très combatif, très direct. Et nous avons construit quelque chose sur des valeurs très simples qui ont servi de ciment à la liste, à savoir la convivialité, l'amitié et puis les objectifs communs, c'est-à-dire battre une citadelle communiste. Et ça, nous avons réuni des gens du RN qui, d'ailleurs, étaient complètement esselés, n'avaient pas vu un cadre du RN depuis des années. Nous avons réuni des adhérents plus ou moins à jour de cotisation de Reconquête. Nous avons réuni des LR qui étaient encore plus esselés, mais alors complètement abandonnés. Et puis, des divers droites, même quelques centristes. Et puis, se pose aussi la question de savoir si, parmi les critères de sélection et de recrutement du RN et d'autres mouvements, il est encore possible de recruter des anciens communistes. Parce que nous en avons eu quelques-uns qui avaient compris que l'usure du pouvoir et puis toutes les magouilles et tout le système soviétique était terminé et qui ont trouvé dans notre démarche quelque chose d'intéressant. Mais ces gens-là, il faut les former politiquement. Il faut les motiver. Il faut les accueillir. On ne peut pas nous-mêmes avoir une politique de fermeture à l'égard des Français qui commencent à réaliser certains problèmes. Donc, il y a eu un travail très intéressant à faire de ce côté-là. On a recueilli, c'est vrai, des soutiens d'anciens communistes. On a recueilli des gens de tous les côtés. On a réussi à faire une liste d'à peu près une quarantaine de noms. Il en fallait 36 au total, mais ça a très bien marché. Et c'est la convivialité, l'amitié et le militantisme qui ont servi de moteur et de ciment.
Jean-Yves Gana, ça a été la même chose pour vous ?
Oui, tout à fait. D'autant plus que nous concernant, il fallait pour une ville qui est plus petite que Virzon. Hein, Virzon, c'est 25 000 habitants. À Dunkerque, combien aviez-vous à Dunkerque de colistiers pour combien d'habitants ?
55 pour 92 000 habitants.
Et à ce gré, par une magouille administrative dont seule la Macronie a le secret, du fait de la commune nouvelle, il fallait 69 noms et donc 71 pour avoir un petit matelas de la sécurité pour 17 000 habitants. Voilà. Et très clairement, ceci n'a été possible que grâce à du porte-à-porte, à de l'amitié, à de la convivialité aussi. Franck Timmermans a raison d'insister là-dessus. Je crois que la convivialité est devenue la grande absente des moments politiques de nos jours. Moi, ça m'a rappelé, je ne veux pas faire l'ancien, hein, mais cette campagne m'a beaucoup rappelé le Front National finissant quasiment, que j'avais connu plus jeune, c'est-à-dire de 2010 à 2015 en gros, qui était un mouvement où la convivialité avait une part extrêmement importante. Et elle était un ciment très important pour brasser divers milieux sociaux, hein, puisque... le Front National de l'époque et d'ailleurs la liste que j'avais là, c'était à la fois des châtelains de la campagne, des fils de miniers, des chefs d'entreprise, des ouvriers, enfin voilà, c'était une diversité sociologique extrêmement importante et une ambiance vraiment sympathique.
Est-ce qu'il y avait aussi une diversité idéologique importante ? Enfin, justement, Franck Timmermans nous expliquait à l'instant qu'à Vierzon, eh bien, il y avait d'anciens communistes. Adrien Nave nous disait que lui aussi n'avait pas forcément regardé où chacun était encarté. Vous, comment ça est-ce que idéologiquement, finalement, vous avez pris les 70 personnes d'extrême droite qui acceptaient de s'engager dans la ville ? Ou alors, est-ce que... comment ça s'est passé justement pour pour constituer la liste et ensuite dans les votants?
Alors, si vous lisez la presse, cette liste est composée exclusivement de militants de l'Alvarium. Et la presse locale, d'ailleurs, est dans un paradoxe parce que à la lire ou à les écouter, l'Alvarium était un groupuscule qui ne réunissait personne. Et puis maintenant qu'on a une liste de 71 personnes à ce gré, c'est une liste composée exclusivement de nervis d'extrême droite. Non. Il est clair que la liste, elle a été composée de plein de gens du CRU qui sont à peine politisés, en réalité, et qui vivent simplement très mal plusieurs choses, dont un déni de démocratie lié à la commune nouvelle et une forme de déclassement lié à la mondialisation, à l'arrivée de l'immigration massive dans nos communes et à la crise économique. Voilà. Même si Segré est une ville assez épargnée hein, d'un point de vue de la crise économique, car on a, je crois, 5% de chômeurs et nous sommes donc en dessous de la moyenne nationale dans ce domaine-là. Mais je pense qu'à Segré, il y a beaucoup de gens qui, bien sûr, ont Internet et la télévision et qui se rendent compte de ce que pourrait être notre futur. Moi, d'ailleurs, j'ai beaucoup fait campagne sur ce thème en leur disant, voilà, je suis né à Roubaix, où mon père était élu municipal, dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et ma crainte, c'est que Segré ne devienne comme Roubaix. Et donc, avec ça, avec du porte-à-porte, avec le fait que je sois beaucoup plus sympathique dans la vraie vie que je ne le suis dans les médias, ou tel que je suis décrit dans les médias, eh bien, on arrive à constituer une liste. Une liste qui est composée de... J'aurais du mal à vous faire des proportions, mais j'avais sur ma liste une ou deux personnes qui étaient encartées au RN. J'avais sur ma liste une ou deux personnes qui étaient des anciens de Reconquête, je pense. Mais en réalité, l'immense majorité, j'avais quelques anciens de l'Avarium quand même, il faut le dire, mais très peu en réalité. Hein. Sur 71 noms, nous devions être trois, je pense. Et puis j'avais surtout beaucoup de gens qui me connaissent pour mon engagement depuis des années en Anjou, ou d'autres qui ne me connaissaient pas, mais qui ont eu confiance en moi, je pense, notamment du fait de cette vidéo et de cette garde à vue scandaleuse que j'avais pu faire au moment de la vidéo sur le Afghan en novembre, et qui se sont dit si on tape autant sur celui-là, c'est qu'il ne doit pas être si mauvais. Voilà. Des gens qui, sans grande formation politique ou idéologique, ont le bon sens de voir que lorsque le système s'acharne, c'est que la victime doit être de bonne composition.
Chers auditeurs, je rappelle que vous êtes, il est 7h50, je rappelle que tout de même que vous êtes sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Actuellement, nous sommes en train de parler de ces élus de droite nationale qui ont réussi à se faire élire hors du cadre des partis. C'est quand même quelque chose qui est assez étonnant. À 8h20, je précise que nous recevrons Laurent Strochu tout de même pour retrouver son livre. Mais tout de suite, il me faut tout de même vous demander quelque chose.
C'est à moi que vous demandez chose et moi je demande quelque chose aux auditeurs, c'est ça ?
Exactement.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ceux qui l'écoutent. C'est un message que vous devez avoir en conscience tout le temps. Aucune publicité, aucune subvention pour Radio Courtoisie. Seuls les auditeurs la financent. Alors faites votre geste en fonction de vos moyens en allant sur soutenir.rc.fr et vous pourrez choisir le mode de don. C'est défiscalisable. Et puis, ça nous permet plus de liberté, plus d'indépendance et de faire des plateaux comme celui-ci, par exemple.
Parfait. Tout à fait, pour avoir de telles émissions. Nous avons besoin de vous. Vous n'êtes que 2%, chers auditeurs, à nous faire un don, ce qui est déjà très appréciable. Merci à vous, les 2%. Et les 98%, on vous attend.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, Alexandre de Galzin.
Nous recevons donc Adrien Nave, conseiller municipal directeur de campagne à Dunkerque, tête de liste à Dunkerque, Jean-Luc Gana, conseiller municipal de Segré en Anjou Bleu aussi, et Franck Timmermans qui avait été vous pour le coup directeur de campagne du nouveau maire de Vierzon, Yannick Leroux. Et nous parlons donc de ces municipales. Nous sommes encore sur le constat. J'aurais une dernière question avant de passer peut-être plus à la question du projet. Adrien Nave, vous avez quand même réalisé quelque chose qui était, quand même courageux, c'est-à-dire au moment où l'état-major du Rassemblement National donc fait pression sur vous pour que on vous place ce parachuté et pour que Antoine Grosjean lui soit expulsé de votre liste, vous tenez bon. Est-ce que vous n'avez pas grillé votre carrière politique ?
Je ne fais pas carrière politique, je ne suis pas là pour ça. J'ai des convictions, j'ai des personnes qui étaient de bonnes compétences, et donc exclure ces gens parce qu'elles ne plaisaient pas à une personne, ça me semblait aberrant. Vous l'avez rappelé, les listes sont composées d'hommes et de femmes qui habitent sur le territoire, qui veulent faire changer nos communes, et donc il me semblait important que je puisse rassembler des gens de bonne volonté, peu importe d'où elles viennent sur cette liste, et ce que nous avons réussi à faire. Et puis malheureusement, voilà, ça n'a pas plu. Alors je mets une réserve parce que je serai reçu en commission des conflits par le Rassemblement National pour m'expliquer sur cette situation. Il faut savoir que cette situation n'est pas propre aux élections municipales. Elle est inscrite dans le temps long. Ces méthodes qui ont été réalisées au moment des municipales en essayant d'imposer quelqu'un ne sont pas nouvelles. Ça date depuis déjà 2020, en tout cas sur le Dunkerquois. Et nous avons toujours lutté contre ces manières de faire. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous êtes tête de liste, il faut faire des choix. Et le choix a été fait de mettre Antoine sur la liste et de ne pas mettre la personne parachutée.
Finalement, on a l'impression que vous êtes au Rassemblement National, mais vous moquez un petit peu des étiquettes d'une certaine façon. Alors que pour le coup, c'est quelque chose qui est, une mairie du Rassemblement National, ça veut dire qu'on peut embaucher des personnes pour le Rassemblement National, ça veut dire qu'on peut être même comptabilisé dans le total des villes conquises par le Rassemblement National. Enfin, c'est quelque chose qui est toujours important pour les partis. Vous, ça n'a pas l'air de vous...
Je suis toujours adhérent du Rassemblement National.
Maintenant, l'élection municipale est une élection particulière, encore une fois. Alors oui, dans les grandes communes, quand vous avez une étiquette, c'est important, ça permet de faire énormément de voix, et le Rassemblement National, on va pas se mentir, fait des voix. Mais quand vous devez composer votre liste, si vous attendez qu'il y a des électeurs ou des adhérents du Rassemblement National qui viennent composer votre liste, vous pouvez toujours attendre. Donc il faut aller chercher plus largement que ça pour composer votre liste. Mmh. Et si vous n'attendez...
En fait, on vous demande de quelque part de composer votre liste, de faire tout le travail, et ensuite on vous dit ah oui, vous avez bien fait, vous avez pas bien fait. Enfin, c'est un petit peu l'impression que ça donne.
Oui, c'est alors, en tout cas pour certaines personnes, je veux pas inclure tout le monde, parce ouais. qu'il y a au Rassemblement National, il y a encore des gens de bonne composition, qui ont cherché à me défendre, qui ont cherché à éviter qu'on arrive à cette situation, et donc je ne veux pas leur jeter l'opprobre non plus. Donc voilà, on a tous à notre niveau essayé de faire en sorte que ça se passe bien. Malheureusement, voilà, il y a parfois des personnes qui ont plus de pouvoir que d'autres, et donc ils arrivent à imposer ou en tout cas éliminer par presse interposée des personnes qui leur conviennent pas. Et donc ça, voilà, ça, je me bats contre ça, surtout dans une élection municipale où c'est l'élection de personnes, d'une liste, d'un projet pour une commune. Et on a déjà des difficultés à recruter des cadres, à recruter des gens de la société civile. Si vous commencez à éjecter des personnes parce qu'elles ne correspondent pas à votre profil ou parce qu'elles ne sont pas assez dans une case pour telle et telle personne, bah vous n'y arriverez jamais.
Mmh. Alors maintenant, je voudrais partir sur une deuxième partir sur une deuxième partie. Je manque terriblement de vocabulaire ce matin, c'est affreux, mais effectivement, quand même, il y a la question du projet qui est derrière. Alors, moi, j'ai l'impression quand même que Jean Gana, comme vous, Frank Timmermans, je le dis de manière tout à fait agréable, mais de manière un petit peu taquine aussi, c'est que vous êtes tous les deux d'extrême droite sans la connotation négative qui va avec, c'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus. voilà, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes, enfin, vous ne vous ferez pas passer aujourd'hui, je pense, pour des centristes modérés ou des admirateurs secrets d'Edouard Philippe.
C'est pas possible.
Dans le fond, il y a quand même cette tendance à dire oui, non, on n'est pas idéologique, on est de bon sens. Est-ce que c'est pas une manière de se cacher un petit peu derrière, enfin de cacher finalement des idées qui sont radicales, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises du tout, hein, au contraire, mais de cacher des idées radicales derrière un vernis qui serait toujours le bon sens, ou alors finalement le fait d'être simplement avec des hommes de bonne volonté. Est-ce que c'est pas un parapluie?
Oui, avec un bon programme de salut public qui puisse être potable et assimilable par tout le monde, je vois ce que vous voulez dire. Non, nous sommes partis un an avant l'élection sur un programme anticommuniste, primaire, secondaire et tertiaire, comme on le faisait au bon vieux temps, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Nous avions en face de nous une mairie et puis un député surtout qui était emblématique, M. Nicolas Sansu, qui était alors le stalinien tout à fait caricatural, qui d'ailleurs a commis plusieurs infractions qui lui ont valu son investiture aux prochaines élections législatives. Mais enfin, c'était presque un bonheur d'avoir affaire à une caricature pareille. Le programme, on l'a réalisé sur nos fondamentaux, c'est-à-dire la lutte contre l'insécurité, la lutte contre les excès fiscaux, pour le retour des entreprises, pour l'attractivité de la ville, etc. Et puis surtout contre les associations bidons. Donc un programme qui quand même a mis à nu toutes les vieilles techniques communistes et qui les a, dans tous les documents que nous avons distribués, condamnés très fermement, dévoilés et condamnés. Et puis, de toute façon, quand bien même aurions-nous voulu nous abriter derrière un programme de bon sens, que grâce aux réseaux sociaux, aux blogs trotskistes, aux blogs de tout poil de l'extrême gauche et à nos adversaires, comme nous étions la seule liste de droite, ils nous ont immédiatement diabolisés, faisant en cela une publicité extraordinaire. Je tiens d'ailleurs à les en remercier, mais sur cette antenne, je tiens à remercier tous les blocs d'extrême-gauche et tous les trotskistes de la ville et des environs qui ont crié « haro » sur notre liste et qui nous ont totalement caricaturés, mais qui ont parlé de nous tous les jours. Tous les jours. Et comme nous étions la seule liste de droite, étant donné que nous avions en quelque sorte puisé toutes nos ressources sur les partis déficients et sur toutes leurs carences, eh bien, ils ont fait une partie de notre campagne.
Jean de Gana, je crois que là aussi, il y a une grande similitude avec Frank Timmermans dans votre campagne.
Ah oui, tout à fait. Moi aussi, je suis bien obligé de remercier Ouest France, le journal Mediapart, le réseau Angevin antifasciste et tout un ensemble d'organismes ou d'organisations de gauche, parfois maquillés en presse quotidienne régionale avec le masque de l'impartialité. Parce que sans eux, sans doute, ma... Et puis le procureur Bouillard, voilà, Eric, si tu m'entends, sois remercié. Voilà, parce que sans eux, très clairement, je n'aurais pas eu la notoriété que j'ai pu avoir dans le Segréen et je n'aurais pas fait le score que j'ai fait. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que vous n'avez pas maquillé votre radicalité en bon sens ? Mais permettez-moi de vous dire que d'abord, je crois que ma radicalité est précisément le produit du bon sens. Tout simplement, et que si je suis radical, comme on dit, c'est parce que je vois ce que je vois et que je le dis avec bon sens et peut-être avec un peu trop de franchise. Mais vous savez, avant d'être le candidat néo-fasciste qui provoque la stupeur en Maine-et-Loire, pour citer Le Monde de cette semaine, avant d'être le fondateur de l'Alvarium, groupement dissous, pour citer toute la presse locale qui n'a jamais cessé de me présenter comme ça, en réalité, je suis aussi et tout simplement Jean-Eudes Gana, qui a fait son école primaire à Saint-Joseph, qui a été membre du club de foot et qui, chaque week-end, fait des fois sous rôti des cochons chez les gens. Et donc, les gens qui ont un peu de bon sens voient bien que, quel que soit mon engagement politique par ailleurs sur des thématiques nationales, auxquelles ils n'adhéreraient pas forcément pour ce qui est de la ville, de la critique de l'immigration et de l'insécurité, de la gabegie financière, du scandale que représente l'instauration d'une commune nouvelle sans consultation des citoyens, etc., etc. Tout ça, les gens sont parfaitement d'accord. Et d'ailleurs, il y a quelques phrases que j'ai entendues à de nombreuses reprises de la part des électeurs durant cette campagne. Il y en a une qui m'a fait très plaisir. Vous dites tout haut ce que nous pensons tout bas. Elle a fait écho en moi à un certain nombre de réminiscences ma tendre enfance même. Et puis une autre. Beaucoup de gens me disaient, écoutez, on n'est pas d'accord avec tout ce que vous dites au niveau national, etc. On a regardé sur Internet, mais nous, franchement, on vous connaît. Ça ne nous dérange pas parce que votre programme nous convient. Et je vais vous dire, dans notre programme aux élections municipales, il n'y a pas un seul moment lors de la rédaction, j'ai été beaucoup aidé d'ailleurs durant la rédaction, mais lors de la rédaction ou de la présentation des points de notre programme, il n'y a pas un seul moment où je me suis auto-censuré. Je dois même dire que je n'ai jamais fait une campagne en étant... aussi libre, voilà, dans mes propos et dans ma pensée. Donc, très clairement, il n'y avait pas de radicalité maquillée en bon sens pour répondre à la question. Il y avait tout simplement le fait que les gens sont peut-être plus radicaux que ce qu'on imagine.
Adrien Nave, sur cette question qui s'est dédoublée d'abord sur la question des médias, parce que vous, effectivement, vous avez eu donc un écho même national avec votre campagne, ce à quoi peut-être que vous n'étiez pas habitué. Deuxième élément, justement sur cette question du bon sens même d'ailleurs... Marine Le Pen a toujours dit ni droite ni gauche, on pourrait dire, dans ce sens-là. Est-ce que c'est pas un peu facile aussi de se cacher derrière le bon sens, les solutions pragmatiques, etc.
Alors j'avoue que sur Dunkerque, je n'ai pas eu la chance d'avoir la publicité qu'ont pu avoir mes deux autres camarades de cette table ronde. Je n'ai pas une extrême gauche fortement implantée sur Dunkerque, puisque je crois qu'ils ont réussi... à faire 5% seulement à Dunkerque. Et puis la stratégie intelligente de mes adversaires a été de ne pas citer mon nom lors de cette campagne. Hey. J'étais le candidat dont il ne fallait pas donner le nom. Et je pense que, en effet, c'est beaucoup plus intelligent parce que du coup, votre candidature n'est pas mise en lumière et vous devez du coup utiliser les médias alternatifs, les réseaux sociaux pour grandir en visibilité. Heureusement, j'avais une implantation sur le terrain... forte, puisque je suis conseiller municipal depuis 2014, et donc ça m'a aidé. D'ailleurs, le
maire sortant a fait des pieds et des mains pour pas qu'il n'y ait de débat, pour pas qu'il y ait de débat télévisé sur Dunkerque, justement pour éviter de mettre en lumière les autres candidats. Et puis, bah oui, le bon sens, je pense que nous sommes le bon sens, puisque nous sommes capables de dire haut et fort les problématiques que peuvent rencontrer nos concitoyens, que ce soit en matière d'insécurité, que ce soit en matière de transparence, de gestion calamiteuse des deniers publics. Et puis sur le Dunkerquois, nous avons, nous, la problématique de l'immigration massive. Nous avons connu, et nous connaissons encore, une immigration massive qui s'implante sur le littoral, avec tous les effets négatifs que cela entraîne. Que, donc voilà, les dégradations sur les biens publics, sur les biens privés, les dégradations sur la nature, hein, puisque je le dis, quand l'immigration passe, la végétation trépasse. Voilà, donc nous avons, nous, été capables de mettre en avant ces thématiques alors que nos adversaires ont fait campagne sur des thématiques banales dont tout le monde se fout et qui, finalement, font consensus.
Le nord de la France, c'est quand même une terre, je pense notamment à Steve Briouat, qui est quand même le maire emblématique du Rassemblement national en France. Steve Briouat a quand même, lui, gère sa ville, mais d'une manière... c'est difficile de colorer, déjà, idéologiquement, sa gestion de la ville, franchement. À côté de ça, quel est l'objectif ? Enfin, il y a un terme qui est souvent revenu, pardon, dans cette campagne, c'est gérer sa ville en bon père de famille, point à la ligne.
Oui, parce que quand vous faites une gestion d'une commune, vous ne faites pas d'une gestion avec une étiquette politique. Vous gérez la commune pour vos administrés, pour gérer les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et quand vous êtes habitant de cette commune, vous connaissez les problèmes de vos concitoyens. Steve Briouat a été élu après un long travail de terrain, bien aidé par ces élus socialistes qui ont piqué longtemps dans la caisse et qui continuent à piquer dans la caisse. Et donc, avec un vrai travail de terrain, avec un projet politique, il a réussi à renverser la table et à se faire élire sur Hénin Beaumont en mettant en lumière une gestion. Alors, il est évidemment élu Rassemblement National. C'est un avantage, c'est une visibilité pour le mouvement. Il continue, d'ailleurs je pense que si on regarde sa campagne 2026, il ne fait pas campagne sous l'étiquette RN, il fait campagne sur Steve Briouat, maire d'Hénin Beaumont. Et donc évidemment les partis politiques sont un soutien dans certaines conditions, quand ils ne vous imposent pas leurs conditions au détriment de l'intérêt local, mais voilà, cette gestion politique, une fois que vous êtes implanté et élu, elle doit se faire dans l'intérêt des habitants, et c'est ce que Steve Briouat a fait depuis 2014.
Franck Timmermans, j'espère que vous me pardonnerez, mais j'ai lu la presse locale, donc pour savoir un petit peu, pour avoir un petit peu des informations sur comment ça se passait, sur la façon dont ça se passait à Vierzon. En tout cas, s'il y a bien une chose sur laquelle tous les journaux sont unanimes, c'est que vous vous inspirez d'Alexandre Avril à Salbris. Est-ce que pour vous, effectivement, sa gestion de la ville est un modèle ? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière de conquête de Solognotte par les deux pôles Vierzon et Salbris ? C'est quand même quelqu'un qui, je crois, était présent au moins à votre victoire il y a quelques semaines.
Oui, il est venu fêter la victoire, évidemment, puisque Salbris est vraiment une ville très très proche dans le département voisin, mais nous avons, c'est vrai, en commun la Sologne. Et puis l'extrême gauche ne peut pas s'empêcher, de toute façon, de déceler dans nos efforts communs la présence d'un complot ourdi de longue date par l'Internationale noire. Il est évident qu'on se réunit dans les cryptes avec une cagoule, comme on en voit dans les albums de Tintin, le cigare du pharaon, etc. Il y a Bolloré sous une cagoule, il y a Sterrin sous une autre, moi sans doute, et puis etc. Enfin, tout cela fait partie d'une espèce de paranoïa absolue qui gagne l'extrême gauche quand la droite se réunifie. Quand le piège de Mitterrand éclate. Piège de Mitterrand qui avait consistait à culpabiliser les partis de droite toutes les fois où ils essayaient de tendre une passerelle avec le Front National de l'époque. Et là, quand ça vole en éclats, quand des LR ne sont pas exclus par le sénateur du coin parce qu'ils font partie d'une liste d'union, quand des RN passent en commission de discipline mais que c'est plutôt oublié pendant la campagne, et puis quand d'autres, même des centristes, viennent nous rejoindre, alors là, ça vole en éclats et... Pendant toute la durée de la campagne, l'extrême-gauche s'est inquiétée qu'il n'y ait pas de liste RN pour venir, d'ailleurs, diviser nos forces. Pour un peu, il serait allé quémander au siège du RN une aide pour constituer une liste de division. Mais non, le résultat, il est là. On a fait notre liste d'union et puis ça a très, très bien marché. Et tant pis pour l'extrême-gauche.
Et d'un autre côté, effectivement, cette union, vous l'avez faite, est-ce que, enfin, d'une certaine façon, il était, par exemple, expliqué dans la presse, mais pour le coup, encore une fois, vous excuserez si jamais je cite Le Monde, Libération,
je vous excuse d'avance.
Que, par exemple, vous ne parliez pas de certains sujets pendant la campagne pour éviter les dissensions, justement, entre ceux qui étaient plutôt de centre-droit, ceux qui étaient plutôt LR, ceux qui étaient plutôt Reconquête, etc. Est-ce que... finalement, c'est quelque chose qui marche uniquement pour des municipales
Alors, ça c'est important, effectivement. Je pense que dans le cadre municipal, déjà les partis politiques soi-disant bien implantés et soi-disant très importants devraient d'abord faire confiance aux cadres locaux. Et que les cadres locaux, les élus locaux... les représentants de leur section et fédération sont les mieux à même de présenter des projets de liste avec tête de liste à la commission des investitures. Ensuite, je crois qu'il faut laisser aussi la liberté aux listes de ne pas vouloir dépendre au niveau de leur comptabilité et des comptes de campagne du siège. Mmh. Il y a des exemples quand même pas si anciens que ça qui montrent que ce n'est pas forcément une réussite que de dépendre pour les comptes de campagne du siège national. Il y a des cas où il vaut mieux quand même, là, revenir à des solutions de bon sens dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire faire appel à des emprunts auprès de nos amis, chefs d'entreprise, de nos camarades, au lieu d'attendre du siège des conditions de comptabilité et de financement qui ne sont pas forcément les meilleures. Donc il y a toute une organisation au niveau des élections locales, municipales et cantonales qu'il faut revoir, peut-être au niveau de ces grands partis, pour faire davantage confiance aux structures locales, à condition qu'elles en aient, évidemment. Ou en tout cas, aux militants isolés, pour avoir leur avis, les consulter, plutôt que de faire fonctionner la machine à parachutage qui déclenche après la machine à couper les têtes. Ouais. Les deux grands services qui fonctionnent dans les grands partis, c'est le parachutage et c'est l'exclusion, donc la commission de discipline. Il faudrait peut-être qu'il y ait un service qui fonctionne, celui de l'implantation.
Jean-Eudes Gana, peut-être une dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que cette idée de réunir justement toutes les personnes de bonne volonté, réunir même toutes les droites finalement dans une liste qui sort un petit peu des partis, c'est quelque chose qui est applicable à d'autres échelles que l'échelle communale. Je pense pas forcément à la présidentielle, mais au moins à l'échelle régionale, à l'échelle départementale, à l'échelle législative. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui peut exister à partir du moment où on a une implantation locale qui est forte?
Oui, bien sûr, même si plus on s'éloigne de l'échelon communal, plus ça devient difficile, mais c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Et ce que je veux dire à nos auditeurs, et nous en sommes la preuve tous les trois ce matin, mais il y a d'autres exemples. Hein. En Vendée, il y a le président du Rassemblement Vendéen, qui est donc un groupe identitaire local qui fait 31% dans sa commune. Il y a à Saint-Chamond, Isabelle Surplis, qui, pareil, double son score et son nombre d'élus municipaux. Il y a d'autres exemples comme cela et comme les nôtres qui prouvent que lorsque l'on est engagé publiquement et à visage découvert, lorsque l'on est connu de ses concitoyens et qu'on fait un travail de terrain, il est tout à fait possible de peser sur le réel. Voilà. Et qu'il existe encore dans notre beau pays énormément de circonscriptions, de communes, de cantons, etc., où l'immigration et l'implantation de l'extrême gauche ne barre pas la route à tout prix à nos idées et aux personnalités engagées. Et donc, voilà, il faut labourer le terrain. il faut le labourer, d'autant plus que parfois, certains endroits, on parlait de M. Chenu, même avec des très beaux scores aux élections nationales, du fait de leur manque d'implantation, ne font élire aucun maire. Hein. Dans le Nord, on voit Chenu qui a zéro mairie, alors que Briouat, qui lui travaille le terrain, en a sept, si je ne m'abuse. Donc, chers auditeurs, en vous engageant sérieusement sur le terrain, vous verrez que d'abord, vous continuerez à avoir une vie de famille et professionnelle et que vous n'allez pas finir absolument persécuté ou assassiné, parce que on peut avoir tendance à croire ça quand on regarde le monde militant vu de l'extérieur. Et ensuite, vous pourrez vraiment agir sur le réel. Donc, engagez-vous.
Et alors, je laisse le mot de la fin en 30 secondes à Adrien Nave. Selon vous, qui êtes encore au Rassemblement National, est-ce que l'ouverture est souhaitable actuellement sur tous les autres partis de droite qui existent, ou toutes les autres mouvances?
Oui, oui. Quand on a des valeurs communes, je pense qu'il faut se rassembler, il faut mettre ce qui nous divise de côté et se concentrer sur l'essentiel, ce qui nous rassemble. Aujourd'hui, on voit que notre pays est en train de changer, que nos communes sont en train de changer, et évidemment, il faut mettre nos principales convictions, voilà, ce qui nous rassemble, les valeurs qui nous rassemblent en avant pour réussir demain à gagner le pays, mais aussi pour gagner toutes les collectivités.
Merci beaucoup Adrien Nave, merci beaucoup Jean-Luc Gana, merci beaucoup Franck Timmermans d'avoir été avec nous ce matin pour cette table ronde qui aurait été, je pense, riche en enseignements tant au niveau local qu'au niveau national. Merci d'avoir été avec nous et puis on vous réinvitera avec plaisir à l'avenir.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, il est 8h15, vous êtes bien sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir si vous venez d'arriver avec nous. Je rappelle que dans quelques instants sera la chronique de Gabriel Fouquet et puis par la suite le débattons-en avec Laurence Trochu. Mais tout de suite, un rappel des titres de l'actualité avec Maëlys Clauzel.
Environ 6000 personnes se sont réunies à Saint-Denis à l'appel du maire LFI Bailly Bakayoko pour un rassemblement prétendument antiraciste, mais sans surprise, aucun mot pour Thomas Perrotto ni pour le racisme anti-blanc. Et plus de 21 000 baptêmes ont été recensés lors de Pâques 2026, plus de 17 400 catéchumènes en 5 ans, un net retour du spirituel notamment chez une jeunesse en quête de sens et de repères. Alors que le festival de métal Homefest approche, le groupe Bastion Divine est visé par une polémique, accusé par un collectif antifasciste de lien avec des figures de droite, le groupe dénonce un procès d'intention. Et nous célébrons ce 7 avril Saint-Jean-Baptiste de la Salle et le bienheureux Herman de Cologne.
Merci Maëlys.
Ligne droite.
Et tout de suite, nous recevons Gabriel Fouquet pour sa chronique. Bonjour Gabriel.
Bonjour Alexandre, bonjour Radio Courtoisie, vous allez bien?
Très bien, merci. Et vous-même, alors de quoi nous parlez-vous aujourd'hui?
Eh bien écoutez, je suis d'excellente humeur. Ah. Les cloches sont revenues de Rome, seul Invictus triomphe, nous frôlons tous l'indigestion de chocolat et la semaine s'annonce juste radieuse. Le monde est beau, chers amis. Tandis que certains d'entre nous rongions notre frein à défaut de pitance vendredi dernier, les amoureux de musique classique, eux, se régalaient de la passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Les mélomanes y communient une fois l'an, bien sûr ils consomment de saison. Mais pour les autres, gourmands, gourmets, boulimiques, ils peuvent aiguiser leur appétit d'ici le prochain Vendredi Saint en écoutant ce chef-d'œuvre d'exception sur YouTube. En 2025, Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion en ont proposé une divine interprétation dans la chapelle du château de Versailles. Considéré comme le chef-d'œuvre de Bach, cette Matthäus Passion, comme l'appellent nos cousins germains, pardonnez mon accent, n'a pourtant pas connu le succès du vivant de son auteur, peu reconnu non plus d'ailleurs à l'époque. Le compositeur meurt en 1750. Il ne laisse derrière lui que des souvenirs de cet oratorio. C'est une sorte d'opéra liturgique destinée à une église pour double chœur, double orchestre, soliste, chœur d'enfant. Ce sourd voyait double. Il faudra attendre presque un siècle après sa première représentation pour que Félix Mendelssohn, 20 ans à peine, exhume la passion. C'était à la Singakademie de Berlin, le 11 mars 1829. Cette restitution, très éloignée de l'original, relance néanmoins Bach et la musique baroque jusqu'à donner naissance à une nouvelle école au XXe siècle que nous appellerons les baroqueux. Pour la faire courte, les baroqueux sont des puristes. Pour eux, les œuvres baroques doivent être interprétées dans les mêmes conditions d'exécution qu'à l'époque de leur composition.
Hey.
Autrement dit, Bach se joue au clavecin ancien, pas au pianoforte. Aucune voix féminine ne peut remplacer les chœurs de jeunes garçons, j'en passe, etc. Ce qui n'empêche pas les querelles de chapelle, particulièrement à propos chez Bach. Comme l'expose Renaud Machard dans son ouvrage Les Baroqueux, ces musiciens se battent entre eux avec une férocité de théologien. Concile, schisme, excommunication, on pourrait épiloguer sur le sexe des anges. Mais arrêtons-nous plutôt sur l'actualité de la question soulevée par les baroqueux. Cette question pourrait d'ailleurs s'étendre à l'ensemble de l'art occidental et au sujet plus profond de la tradition. Ne peut-on transmettre qu'en figeant ? Interpréter signifierait donc dénaturer ? En 1879, Nietzsche, qui a évidemment un avis sur tout, écrit « L'interprétation vraiment historique parlerait en fantôme à des fantômes ». Fin de citation. Réponse du chef d'orchestre autrichien.
On vous entend plus, Gabriel Fouquet. Ça s'est arrêté à la réponse du maître autrichien. Non. Alors, on ne vous a plus. On n'a plus votre son pour une raison qui nous échappe. Peut-être, je ne sais pas si à la régie vous arrivez à le rétablir. Mais. Non, bon, eh bien, écoutez, ça semble compliqué, c'est
oui,
dommage. Parce...
Vous
oui, ah oui, c'est bon, vous êtes de retour, enfin.
Ah.
Bon.
Alors dites-moi, vous en étiez où? Arnoncourt.
Oui, réponse du maître autrichien.
Arnoncourt répond donc à Nietzsche un demi-siècle plus tard, ouvrez les guillemets, restituer authentiquement la musique historique ne signifie pas accepter son rôle de fantôme. C'est la seule voie juste pour la rendre de manière vivante et respectueuse. Fin de citation. Transmettre, ce n'est pas figer. Restituer et passer, c'est s'appuyer sur l'origine pour révéler l'actualité. Limiter les représentations de la passion de Bach au seul Vendredi Saint, dans un cadre strictement religieux, permet d'en livrer toute la puissance spirituelle. Les prises de position novatrices et aussi conservatrices des baroqueux au cours des 19e et 20e siècles ont permis la renaissance d'instruments et la redécouverte de formes d'interprétation jugées démodées ou archaïques. Et encore, ce sont ces mêmes positions qui ont fait émerger de nouveaux talents, tels que Raphaël Pichon et l'ensemble Pygmalion. Sans Bach, point de Mozart, et c'est lui-même qui le dit.
Merci Gabriel pour votre passion et pour vos superbes descriptions. Toujours, on vous dit à la semaine prochaine, et moi je laisse l'antenne à Richard de Sèze.
Le samedi 11 avril prochain, comme chaque année, l'Institut Iliade organise le plus grand rendez-vous métapolitique de droite. Le colloque de l'Iliade, c'est plus de 1500 participants réunis à la Maison de la Chimie, à Paris, pour une journée d'intelligence et d'engagement. Des personnalités, des artistes, des intellectuels, des jeunes au service de leur communauté se retrouveront pour penser la France et l'Europe de demain et réfléchir ensemble à la meilleure façon de défendre nos libertés, thème de cette année. Autour de la buvette, des dédicaces ou sur les très nombreux stands, retrouvez les chroniqueurs et invités vedettes de Radio Courtoisie. Laurent Oberton, Jean-Hugues Gana, Pierre Larty, Jean-Yves Le Gallou ou Alice Cordier seront heureux de vous saluer. Ne manquez pas cet événement unique. Rendez-vous le 11 avril à Paris pour le colloque, suivi cette année d'un grand bal traditionnel. Les billets sont en vente sur institut-iliade.com.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour débattons-en, nous avons le plaisir de recevoir Laurence Trochu, dont on sait qu'elle est députée européenne. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Mais vous êtes aussi mère de 6 enfants et vous venez aujourd'hui nous raconter ce qui est arrivé à votre fils en 2017, à la veille du carême, donc, votre fils est renversé par une voiture.
Exactement, il est renversé par une voiture et très vite on comprend la situation comme étant très grave puisque les médecins nous annoncent qu'il est dans un coma. D'emblée, Glasgow 3, donc Glasgow 3, c'est l'échelle qui mesure la conscience et c'est vraiment très faible. Hein. Visiblement, les zones du cerveau les plus touchées sont celles qui commandent les fonctions vitales. Ça, on l'apprendra lorsque l'IRM sera faite. Et que l'électroencéphalogramme est très faible et donc qu'il est tout proche en fait de la mort cérébrale. Donc l'état est vraiment désespéré. On nous dit que voilà, il sera emmené à l'hôpital, mais sans garantie qu'il y arrive en vie. Voilà.
Alors on vous dit ça, il arrive à l'hôpital, il est encore en vie. Les médecins établissent un diagnostic. L'un d'entre eux vous dit que son projet de vie est de vivre un an ou 18 mois.
Exactement.
Donc, on parle d'un enfant de 11 ans. Mmh. Donc, en étant inconscient, et évidemment, vous vous posez la question de l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire, si on explique que votre enfant va vivre dans un état au mieux végétatif, je cite le médecin, pourquoi diable laisser cet enfant sous appareil respiratoire, intubé, nourri par sonde ?
Alors c'est évidemment la question qui nous habite, notamment parce que il y a eu plusieurs épisodes. Il y a eu l'épisode d'une infection pulmonaire où évidemment il a été traité par antibiotiques et où en fait on se disait finalement à quoi bon continuer des soins ? Est-ce que ce sont pas des soins qui sont déraisonnables ? Et je vais d'ailleurs poser la question telle quelle à l'un des réanimateurs parce que il s'est extubé à deux reprises. La première,
il s'est extubé tout seul.
Tout seul, en toussant, visiblement, sans qu'on sache très bien comment ça s'est passé. Et puis, il a tenu en autonomie respiratoire jusqu'à ce que finalement, son état soit trop faible pour qu'il puisse être laissé comme ça. Et j'ai dit au médecin, mais si finalement, il ne doit vivre qu'un an en état dit végétatif, c'est-à-dire capable de respirer seul et sans jamais retrouver la conscience, à quoi bon l'avoir rebranché ? Et le médecin, en fait, ne savait pas répondre. Elle me dit, je ne sais pas, c'est trop tôt, en fait, on veut se laisser du temps, il est jeune. Bref, je n'avais pas de réponse à la question. Et moi, elle me taraudait malgré tout, parce qu'on sait bien, et on l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, que l'acharnement thérapeutique, finalement, est aussi à l'origine de l'euthanasie. Vous voyez, il y a un lien entre les deux. Et la question est, finalement, qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Donc, en l'occurrence ici, je pense qu'il faut s'appuyer sur la réponse des médecins, sur la réponse médicale, scientifique d'un médecin qui nous dit « je ne sais pas », mais il faut se donner du temps, précisément aussi parce que l'électroencéphalogramme n'était pas plat, vous voyez, donc il n'y avait pas de mort cérébrale. Et donc, c'était dans cette petite activité électrique du cerveau que résidait finalement la possibilité que le diagnostic initial soit renversé.
Alors, il y avait cette possibilité et il y avait aussi cette foi qui vous anime, vous et votre famille. On sent que toute la famille est au chevet du fils, du frère. Il y a aussi cette incroyable chaîne de solidarité chrétienne qui enveloppe votre fils, voilà, qui est scout à Versailles. Et donc, évidemment, sa troupe et puis peu à peu, le monde entier participe. On sent une grande mobilisation avec l'idée... Enfin, qui transparaît dans votre livre, que si on demande à Dieu la guérison, frappez, l'on vous ouvrira, demandez, vous recevrez.
Exactement.
Et vous le dites, du coup, je demande tout, je demande la guérison complète.
C'est ça, c'est que en fait, on a eu, on a expérimenté ce que signifiait le corps du Christ, le fait que chacun de nous est un membre de ce corps. On l'a expérimenté dans la chaîne de prière, effectivement, qui a pris une ampleur qui nous a complètement dépassé, parce que au départ, c'était un fil WhatsApp initié par un ami, tout simplement pour qu'on puisse répondre aux multiples sollicitations qu'on recevait chaque jour concernant l'état de Stanislas. Et puis ce fil qui a été en fait transféré au point, effectivement, de se répandre dans le monde entier. Et puis une chaîne très humaine aussi, et ça je tiens à le dire parce que c'est aussi ça qu'on expérimente dans une communauté paroissiale. C'est des gens qui prient et puis c'est des gens qui ont les pieds sur terre et qui donc s'occupent de nous, qui voyaient évidemment notre famille complètement happée par cet événement, n'ayant évidemment pas le temps de gérer la vie quotidienne, même si nos parents étaient à nos côtés. Et donc, ces bonnes samaritaines qui nous apportaient tous les deux jours des dîners pour 8-10 personnes, de manière à ce qu'on puisse être entièrement soulagés pour nous occuper de l'essentiel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a expérimenté sur plusieurs mois. Parce qu'on a eu cet accompagnement sur plusieurs mois.
Votre fils donc est renversé juste la veille du Mardi Gras en 2017. Il a 11 ans. Il célébrera d'ailleurs ses 12 ans dans cette unité de réanimation. Et peu à peu, en fait, et malgré le pronostic initial, il commence à bouger, il est capable de s'extuber, il respire tout seul, électriquement, le cerveau a l'air de réagir, et il y a des signes, en fait, de guérison quasiment inexplicable, en fait, au fur et à mesure que les jours passent.
Guérison très progressive, parce que vous savez, quand vous êtes confronté à un proche qui est dans le coma, vous ne savez pas très bien, en fait, ce que ça veut dire, il va se réveiller. Vous voyez, on voit un peu dans les films, tout à coup, la musique très émotionnelle, et puis hop, les yeux qui s'ouvrent, et puis la personne, il y a une sorte de jour-nuit, vous voyez, alors qu'en fait, là, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. On a vécu vraiment chaque jour en ayant les yeux rivés sur les machines avec la mesure de la pression intracrânienne, et on se disait, mais qu'il meure ou qu'il se réveille, oui, mais comment, en fait? C'était vraiment, qu'est-ce qui va faire que tout à coup, il va se passer quelque chose dans un sens ou dans l'autre? Et c'est vrai qu'il y a eu ce moment, parce que je pense qu'on a une sorte de sens très aiguisé, avec une acuité très grande dans ces moments-là, où j'ai senti que la question, pour le coup, de le débrancher se posait vraiment du côté des médecins. Et j'ai dit à Stanislas un soir, avant de le quitter, « Écoute, je ne sais pas si tu m'entends, je ne sais pas dans quel état tu es, mais donne-nous un signe que ta vie est possible. » Ou si elle ne l'est pas, en fait, meurs, va rejoindre le bon Dieu, parce que nous ne voulons pas avoir à prendre une décision de valider la suggestion des médecins d'arrêter les soins. Et en fait, le lendemain, quand je suis revenue, y a eu quelque chose d'assez incroyable, c'est que le réanimateur m'attendait. Je me suis dit, bon, soit c'est bon signe, soit au contraire, elle est là pour m'accompagner et me dire que mon fils est mort. Et en fait, elle me dit, voilà, dans la nuit, on ne sait pas très bien comment, en toussant probablement, il s'est extubé et il respire indépendamment des machines. Donc, comme je le disais, ça n'a pas tenu très longtemps, mais j'ai évidemment fait la relation avec les mots que je lui avais donnés la veille au soir. Et cette respiration, elle était une manière de vivre, une manière de dire d'ailleurs, je veux vivre. Voyez, et il y a eu comme ça à chaque élan de prière, parce que chacun se confiait à un saint particulier. Il y a eu ces signes successifs, cette reconstruction petit à petit, où on a compris finalement que étape par étape, il était là et qu'il allait revenir. On ne sait pas dans quel état, mais il était là.
Alors, il est revenu. Alors, ça y est, maintenant, donc 2017-2026, il est vivant, il a quelques problèmes cérébraux, de mémoire immédiate, etc. Mais voilà, il parle, il bouge, il est présent, il est vivant. Et surtout, je crois que c'est l'une des leçons de votre livre, « Maman, j'ai vu Jésus », il est heureux.
Oui, en fait... il est heureux parce qu'il a fait une rencontre à laquelle on était évidemment absolument pas préparé. Il a fait une rencontre qu'il nous a livrée le jour de Pentecôte 2017. Il rentrait à la maison de l'hôpital, passait la journée. Et à cette étape-là de sa reconstruction, on va dire, il avait retrouvé la parole, puisqu'en sortant du coma, il était paralysé, presque aveugle et mutique. Là, il avait retrouvé la parole, mais simplement pour répondre à des questions très simples, des questions fermées par oui ou par non. Et pendant 40 minutes, il nous a fait le récit de ce qui s'était passé de son côté, en fait, quand il était dans le coma. Cette expérience qu'il a eue de sortir de son propre corps, de voir d'ailleurs ce que nous vivions dans le salon au moment où le médecin est venu nous informer de la gravité de son état. Et puis cette phrase de « j'étais dans la vraie vie et vous n'y étiez pas. J'étais dans la vraie vie ». Et il nous dit avoir rencontré Jésus, d'où le titre du livre et l'illustration aussi qui lui est due, puisque en art-thérapie ensuite, il a représenté par ce tableau cette lumière qu'il a vue, Jésus resplendissant de lumière. C'est vraiment l'expression qui revient sans cesse dans son récit que nous livrons à la fin du livre.
Et il a vu Jésus, et il a vu son arrière-grand-mère. C'est un témoignage, on sent qu'il est rempli en fait de cette joie céleste. Et d'ailleurs, c'est une expérience de mort imminente. Et en fait, vous dites, mais non, c'est une expérience de vie imminente.
C'est comme ça qu'il le traduit, effectivement. C'est une expérience de vie imminente parce que la vraie vie, et auprès de Jésus. Alors, il garde cette nostalgie du ciel, en fait, puisqu'il nous a dit « Moi, j'aurais préféré rester là-bas. Je suis content de vous avoir retrouvé, mais j'aurais préféré rester là-bas parce que voir Jésus, c'est toucher l'amour infini. » Et donc, on est saisi par cet amour qu'on ne peut absolument pas soupçonner ici dans ce que nous vivons sur Terre. Alors après, il a grandi en se reconstruisant, comme je le disais, parce qu'il a tout réappris. En 2 ans et demi d'hôpital, il a tout réappris. Il y a des handicaps aujourd'hui persistants. Sa mémoire, le fait qu'il marche mais en claudiquant. Il ne sait pas courir, par exemple. Il ne peut plus utiliser sa main droite. Voilà, il y a toutes les petites choses de la vie qui sont devenues un peu plus difficiles, mais avec chevillé au cœur une foi, une joie qui n'empêche pas malgré tout qu'il soit un adolescent ou un jeune homme maintenant qui parfois énerve ses parents et qui faille évidemment éduquer comme n'importe quel autre enfant. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui serait sans défaut.
Voilà, il n'est pas sans défaut. Pendant les 50 jours que dure cette première étape de sa nouvelle vie, donc avant Pâques et ensuite jusqu'à la Pentecôte où il vous livre ce récit, vous-même, et vous le racontez dans le livre avec votre mari, présence discrète mais indispensable, vous êtes évidemment acharné à être à ses côtés, à ce qu'il guérisse avec vos enfants, mais vous décrivez aussi la manière dont le découragement peut vous saisir. Je tentais de planifier et de conduire mes journées. Je suis une petite force offensive qui veut prendre un avantage décisif sur un adversaire ayant pour nom le découragement, le mien et celui plus ou moins apparent de mes proches. J'engage toutes mes forces dans ce plan simple qu'il faut sans cesse répéter et savoir exécuter pour prendre l'ennemi par surprise avant même qu'il n'apparaisse. Et c'est vrai, voilà, vous êtes mère, votre enfant de 11 ans est dans un état végétatif. Évidemment, on imagine la dévastation totale.
En fait, on n'a pas le choix. C'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est que quand on est pris de plein fouet par un drame comme celui-là, on est face à l'Everest, quoi. Voilà, c'est gigantesque, c'est monumental, et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que il faut tout donner, il faut se donner, et sans oublier les autres enfants. Il y avait 5 autres enfants, pour le coup, bien vivants. Et en fait, on n'a pas le droit d'abandonner. On doit mener ce combat. Et je découvre en fait que je ne suis pas seule pour le mener. Je découvre que finalement, il y a la toute-puissance de l'amour de Dieu à nos côtés, qui nous donne une force qu'on n'imagine absolument pas. C'est-à-dire que finalement, on a chaque jour les grâces dont on a besoin pour surmonter l'épreuve qui est devant nous. Et ça, c'est la providence, vraiment, où le bon Dieu sait mieux que nous, finalement, ce dont nous avons besoin.
Alors, Dieu vous donne même la force de regarder Koh-Lanta, et on sent que vous avez été la première étonnée.
Je me suis fait un peu violence, exactement. Voilà.
Le temps file ainsi au rythme de nos nouveaux rites, parmi lesquels la promenade dans le parc et Koh-Lanta. Voilà, petit délire familial duquel je m'étais exclu jusqu'à présent.
Exactement, il y avait une petite passion familiale pour cette émission. Et quand Stanislas a commencé à être un peu plus conscient de l'environnement qui l'entourait, évidemment, il fallait aussi le stimuler au niveau de tous les sens, finalement, de l'odorat, etc. Et puis aussi de l'intéresser pour l'aider à revenir dans ce monde. Et quand je lui ai proposé de regarder Koh-Lanta en replay, parce qu'il avait loupé pas mal d'épisodes, évidemment, j'ai vu là, il y avait quelques expressions sur son visage, une telle impatience que je me suis dit, bon voilà, il va falloir que je m'y colle et que je m'y intéresse. Et c'est vrai qu'il y a eu ces moments de complicité aussi, parce que finalement, on se redécouvre et on se redécouvre, mais j'avais devant moi un enfant que j'avais mis au monde 12 ans auparavant et qui finalement n'était plus le même. C'est-à-dire qu'à 12 ans, il s'est réveillé en ayant moins d'autonomie qu'un bébé. Et il fallait apprivoiser, en fait, presque cette nouvelle personne, savoir comment finalement mon fils allait fonctionner, comment il allait réagir, comment il allait revenir à la vie. Une vie qui ne pouvait évidemment pas être la même que celle d'avant l'accident.
À un moment donné, donc il a changé d'hôpital, vous êtes passé dans un hôpital au charme désuet dans la verdure, en grande banlieue, et l'un de ses frères le pousse dans un fauteuil assez lourd, et il lui raconte ce qu'il a fait pendant le week-end, évidemment, il est scout lui aussi, et... Il lui aussi, un peu le découragement le saisit. Il dit, je te raconte des choses, si ça se trouve, tu ne comprends rien. Mmh. Et votre fils, péniblement, réussit à esquisser le salut scout. On sent à quel point, d'abord, toute la famille a été soudée, et à quel point ce scoutisme est une force qui irrigue, en fait, toute la famille.
Exactement. D'abord, ça commence par ce post Facebook des guides et scouts d'Europe qui annonçait l'accident et qui... invitait tous les groupes et toutes les unités à prier pour Stanislas, en les réunissant lors d'une messe à la cathédrale Saint-Louis et à Notre-Dame des Armées à Versailles. Et puis ce salut scout qu'effectivement il va péniblement réussir à faire au début avril, je me souviens, à un moment où finalement il y a eu ce déclic et où les médecins eux-mêmes se sont dit: il a quitté le stade végétatif et on peut considérer qu'il est entré en phase possi-relationnelle, c'est-à-dire réactif à son environnement où le lien est possible, où l'interaction est possible avec des personnes. Et donc ça, c'était précisément le stade qu'on n'imaginait pas, puisqu'on nous avait dit qu'il ne retrouverait jamais la conscience.
Alors, possi-relationnel, c'est d'ailleurs exactement la manière dont Vincent Lambert était qualifié. Donc, on ne va pas parler de l'affaire Lambert, mais on voit bien que possi-relationnel, pour vous, c'était une victoire. Pour Stanislas, c'était la vie. Et donc, on est évidemment horriblement surpris de la manière dont ça s'est passé pour Vincent Lambert. Dans votre livre, il y a évidemment les 5 autres enfants et vous et votre mari, vous nous dites, en fait, nous n'avons pas une minute à perdre pour aimer plus et pour aimer mieux. C'est-à-dire, ce qui est arrivé à Stanislas, c'est chaque instant de chacun qui devient en fait terriblement précieux.
Oui, parce qu'en fait, on réalise qu'un tel accident peut arriver à n'importe qui sans prévenir. C'est la définition même de l'accident. Et la question qui nous est, qu'on se prend en pleine face, c'est finalement... Et si demain la vie s'arrêtait, qu'est-ce que j'en aurais fait ? Et on est pressé finalement de par cette question, on est tenaillé par cette question. Et moi, c'est vrai que je me dis dans nos vies qui vont très vite, qui sont absorbées aussi par les téléphones, par exemple. Quelle est la qualité des liens qui nous unissent à nos proches? Quelle est l'intensité avec laquelle nous vivons chacun des moments aucun n'est banal, vous voyez, et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. J'ai pris conscience aussi de mes propres manquements à cet égard et de me dire finalement, si la vie est si fragile, on est là pour la rendre belle, on est là pour aimer les siens, pour aimer Dieu, et donc on ne peut pas gâcher les moments, on ne peut pas les perdre, on ne peut pas les gaspiller, en fait.
Alors, vous revenez, et c'est l'épilogue de votre livre, vous revenez un jour voir le médecin, le neurochirurgien qui avait opéré Stanislas la nuit de son accident, et vous lui dites « Je suis la maman du patient condamné à une vie végétative ». On sent une certaine revanche dans la formulation.
Pas une revanche, parce que vraiment je suis très très reconnaissante aux médecins qui ont pris soin de lui durant toutes ces années, parce qu'il est resté en hôpital, selon différentes versions, mais pendant 2 ans et demi. Mais j'ai vraiment compris aussi que les médecins eux-mêmes, finalement, ne savaient pas dans ses premières semaines ce que sa vie pouvait être. Donc, en l'occurrence, c'était pas une revanche, c'était plutôt une victoire de la vie où chaque intervenant avait eu son rôle à jouer, mais où, et le médecin le reconnaît à demi-mot, finalement, il s'était passé quelque chose qui échappait à la science. Et le médecin de dire, effectivement, voilà, ce n'est plus de mon ressort, maintenant ça va être de la rééducation, et je ne m'explique pas cette issue surprenante.
Ce n'est plus mon travail, et d'ailleurs je n'ai pas fait grand-chose, je ne m'explique pas cette issue surprenante. Cette issue surprenante, voilà, c'est le fait que la vie a triomphé, on vient de fêter Pâques, le Christ est ressuscité, et Stanislas nous dit, vous voyez maintenant, ma vie est faite pour témoigner de l'amour infini de Jésus.
Exactement. C'est-à-dire que c'est ce qui l'anime. Il raconte, hein, quand il a rencontré Jésus, que lui, son souhait aurait été évidemment que Jésus le prenne dans ses bras. Et Jésus lui a dit « Ne me touche pas. Voilà, tu ne vas pas mourir. Je te demande voilà, de retourner sur la terre et d'y témoigner de cet amour infini que tu as expérimenté. »
Laurence Trochu, merci beaucoup pour votre témoignage et celui de votre famille. « Maman, j'ai vu Jésus » aux éditions Via Romana. Un petit livre, mais un grand témoignage. Merci mille
fois. Merci beaucoup.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Dans quelques minutes, ce sera Mériadec Raffray qui nous parlera d'Israël en guerre. Puis nous aurons les chroniques de Victor Aubert et bien sûr la revue de presse de Gilles Brochard. Mais tout de suite, nous retrouvons Yvan Rioufol.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.